Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour, Nathalie Janson.
Bonjour.
J'ai réussi à faire le programme sans accrocher, comme tout à l'heure à 9h. Fantastique. Professeur à Neoma Business School. Olivier Babot, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buch et Chastel. Rafik Smati, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Vous êtes chef d'entreprise, notamment dans le digital, et vous avez publié Le nouveau temps. Comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA chez Erol. Vous savez que sur l'IA, j'entends plein de petits trucs à bas bruit. C'est les choses qui ne font pas encore la une de la presse, qui ne s'étalent pas encore sur... et qui n'ont pas forcément encore imprégné les esprits. Mais plein d'entreprises disent qu'elles revoient sérieusement leurs effectifs à cause de l'intelligence artificielle.
Ah bah vous avez quand même d'habitude deux façons de voir les choses. Soit on voit le verre à moitié plein et on va perdre des jobs. Soit on essaye de, c'est ce que je fais dans ma propre boîte, d'avoir des gains de productivité grâce à l'IA. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai lancé une activité en Allemagne que je n'aurais pas lancée
sans l'intelligence artificielle.
Donc, je me suis séparé de personne dans mon équipe, mais j'ai lancé un projet que je n'aurais jamais lancé autrement. Donc, je pense que moi, vous connaissez mon tropisme optimiste et volontariste. Moi, je crois que l'intelligence artificielle va être à l'origine d'un bond spectaculaire en matière de productivité.
Alors, moi, j'ai des petits retours, plusieurs. C'est quand même avant la création.
Mais ça va être les deux, Nicolas. Mais
et la révolution, ça va être sévère. Quoi.
Mais ça va être
rapide.
C'est un processus qu'on connaît tous ici de destruction créatrice.
Oui, non. Alors je suis pas d'accord.
Mais si,
ben,
je suis pas
cette fois-là.
Mais on va passer.
C'est pas comme les métiers à tisser, Rafik.
Mais on va passer dans une grosse Non, mais je connais votre théorie. Vous dites que on est en train de passer de l'intelligence
carbonée à l'intelligence au silicium.
C'est vrai.
Ah oui, mais c'est pas comme le fait de remplacer un métier par une machine.
Bon, enfin, quand vous êtes séparé des animaux. Pour passer sur des robots, c'est un changement de paradigme d'une nature comparable. Et pourtant...
Non mais l'histoire vous donne raison. Mais j'ai un peu l'impression que c'est pas la même dimension, c'est pas la même rapidité, c'est pas donc dans l'agenda ça va plus vite, et au niveau planétaire c'est pas réservé à un pays.
Chaque révolution industrielle est exponentiellement plus importante que la précédente. Ouais. Ça c'est une constante. Bah, il faut s'adapter et essayer d'en tirer profit. C'est ça l'enjeu.
Vous êtes d'accord, vous
Non, moi, je suis très partagé.
Partagé.
Je doute beaucoup. Effectivement, il y a une possibilité de croissance folle et de suppression des emplois. Et en même temps, je sais que les besoins humains sont infinis. La partie de l'économie qui subvient à nos besoins matériels, c'est-à-dire vraiment boire, manger, finalement, c'est tout petit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout le reste, notamment par exemple le divertissement, ce sont des besoins qui sont apparus. Il y aura d'autres besoins. Peut-être que le travail humain va gagner en valeur prodigieusement parce que justement, l'intelligence va devenir une sorte de robinet de commodité, et donc le travail vraiment humain, le travail du cœur ou le travail de la main, peut-être d'ailleurs l'imperfection, va regagner en valeur. Regardez Taylor Swift, le spectacle vivant, plus de 2 milliards si je ne me trompe pas de chiffre d'affaires. Le spectacle vivant retrouve un lustre extraordinaire, et ça le numérique, bon. Même les robots ne pourront pas le prendre. Voilà. C'est la vision optimiste.
Il est donc plus que jamais temps d'investir dans le capital humain. Je fais référence au combat de Xavier Jaravel que vous soutenez.
Toujours.
Voilà. Bon, on aura l'occasion de reparler de ces phénomènes. Ben, d'ailleurs, on en reparlera quand on parlera des 440 000 emplois créés avec une faible croissance. Est-ce que c'est une bulle, Nathalie Janson ? Alors, vous faites partie des personnes expertes et plutôt attirées par le phénomène de la crypto-monnaie. D'ailleurs, vous utilisez le mot...
Ah oui,
monnaie.
J'assume totalement.
Là où moi, j'utilise le mot actif.
Oui, ça fait quand même un petit moment que je suis ce charmant. Ah je voilà, comme toutes celles comme tous ceux et toutes celles qui recherchent, je n'ai évidemment pas acheté quand je l'ai regardé à 100 $ il y a fort longtemps.
On peut l'avouer.
Voilà, non, même pas. J'ai trouvé ça trop compliqué à détenir, donc j'ai pas voulu le faire parce que fallait montrer fallait faire déjà du KYC. J'ai dit mais c'est quoi ce truc ? Moi, j'ai pas du tout envie de montrer mes papiers d'identité. C'est pas grave, j'en achète pas. Voilà, comme quoi on prend des mauvaises décisions.
Vous en avez acheté jeudi dernier à 69 000 ou mercredi dernier, vous auriez gagné, puisque c'est quasiment 73 000.
C'est ce que je dis à mes élèves tous les jours, je leur dis, est-ce que vous avez acheté du bitcoin pour payer vos vacances cet été ?
Non mais il faut rappeler qu'il y a 6 000 cryptos.
Oui, même plus, oui, il y en a un nombre infini.
Alors, l'Ether, là, il va repasser les 4000 dollars. C'est un monde plein d'aficionados très, très affûtés. Je me suis fait reprendre ce matin parce que j'ai eu le malheur de dire que l'Ether, au-delà de 4000, était proche de ses records. Non, c'était bien au-delà, c'était à 4700.
Oui, c'est ça.
21,
je crois. Il avait.
Donc, il ne faut jamais dire de bêtises sur les cryptos. Ben, moi, je pose une question qui fâche. C'est une bulle?
Alors, c'est une bulle, ça, c'est une bonne question. Ça faisait l'objet d'un article très, très bien écrit qui a été cité pas mal de fois dans le Financial Times qui disait, bon, écoutez, une fois ça va, deux fois ça va. Là, on en est à quatrième. On n'a jamais vu une bulle qui se relevait quatre fois. D'accord. Donc, si vous prenez
bien
les...
Vu.
Voilà. Donc, c'est pour ça que cet article était plutôt bienvenu, parce qu'il disait, bon, maintenant, on va peut-être arrêter de parler de bulles. Là, le Bitcoin est clairement est dans une phase... Enfin, je veux dire, il est là. Il a pris un espace. Il est même effectivement il est plus performant que l'Ether en termes d'évolution dans ces derniers... depuis l'hiver crypto, c'est celui, en fait, qui performe le plus. Donc, il est
triplé
même... Il est à nouveau la monnaie, si on veut bien l'appeler comme ça, reine des cryptos.
Donc vous voyez vraiment le Bitcoin d'un côté et le reste du crypto.
Alors l'Ether évidemment est bien toujours là, mais on voit bien que là c'est un moment Bitcoin, et c'est un moment Bitcoin parce qu'il y a deux choses cumulées essentiellement, où on en verra aussi d'autres, mais disons que le fait qu'on a eu ces ETF qui justement s'adressent, oui, alors aux États-Unis, qui s'adressent comme à des gens comme moi qui trouvaient ça compliqué de détenir du Bitcoin. Et bien là, en fait, des ETF, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir comment ouvrir votre compte ou détenir vos bitcoins, puisqu'en fait, vous ne les détenez pas, vous. C'est donc le BlackRock qui les détient. Et là, on voit...
Premier fonds du monde, exactement. 12 milliards de bitcoins amassés en l'espace de combien un mois.
Exactement. Donc, on voit un peu ce qui s'est passé sur FTX, en fait, revenir, mais là, avec des meilleures bases, puisque, effectivement, on a compris que des nouveaux acteurs sur ce marché pouvaient ne pas toujours être, fiables. Là, c'est BlackRock. Qui va douter que BlackRock va faire des montages bizarres? Donc, effectivement, les investisseurs en particulier qui étaient intéressés par le Bitcoin, eh bien, ils reviennent, puisque c'est BlackRock. Ils ne vont pas détenir les Bitcoins. Donc c'est plus facile. Donc déjà le test du succès est passé, c'est-à-dire que effectivement avant, quand on disait que les autorisations allaient venir, on se demandait toujours si la demande allait être au rendez-vous. Elle est au rendez-vous, ouais. Elle a même dépassé les attentes. Et là il faut savoir que en Angleterre il y a des demandes d'autorisation en cours et on pense qu'elles vont être données.
À la Bourse de Londres a autorisé.
Oui.
Alors c'est un produit plus technique.
Oui, plus technique.
Encadré.
Mais néanmoins il y a quand même l'ETF qui sera derrière. À Hong Kong c'est pareil. Donc si vous voulez il y a quand même beaucoup de potentiel futurs ETF qui vont être lancés. Et donc, si la dynamique continue, c'est d'autant plus. Deuxième élément, effectivement, il y a cette fameuse, ce fameux halving qui arrive. Donc, ça veut dire qu'en fait...
On va rappeler, hein, tous les 4 ans à peu près, ça devrait se situer aux alentours du 19-20 avril. Ça va avoir pour effet de réduire la rémunération des mineurs de Bitcoin et donc de resserrer les quantités.
Voilà, la quantité, elle va passer de 900 Bitcoins à jour à 450. Donc, quand vous avez un marché où 70% des Bitcoins ne circulent pas, parce que c'est ça aussi, il faut savoir, hein, 70% des portefeuilles de Bitcoin, en fait, ne circulent pas. Donc, ça veut dire que la masse circulante, donc là où arrive la demande, elle est petite. Mmh. Et qu'il y en a 450, enfin, ça va passer de 900 à 450, bah forcément, ça donne encore plus d'augmentation du prix en anticipation de ce halving. Donc, le halving qui a souvent, effectivement, cet effet de hausse des prix, eh bien là, est encore plus renforcé par cet effet de succès des ETF.
Alors, parce qu'en fait, le halving, généralement, l'effet d'appréciation est post-halving.
Oui. Là, il intervient avant.
Notamment porté
mais nourri par les ETF. Et puis, si on veut finir, on peut faire aussi parallèle avec les risques potentiels, enfin les tensions géopolitiques. Et là, on retrouve un peu, effectivement, ce parallèle avec l'or, puisque il y en a effectivement qui se disent, eh bien, je vais plutôt aller sur d'autres actifs que. Et puis, parce que pour diversifier son portefeuille, pour. Voilà. Donc, il y a la perspective de baisse des taux. Enfin, tout ça, ce sont des arguments en faveur pour des investisseurs de vouloir investir ailleurs.
Parce que l'or, généralement, il n'y a pas vraiment de rendement. On attend plus de la sécurité, tandis que le bitcoin, on peut imaginer. Bon, mais donc voilà, jamais 4 bulles, ça s'est jamais vu, donc il n'y a pas de bulles.
Voilà,
est-ce que vous êtes convaincus, messieurs Smati et Babo, par la démonstration de Nathalie Janson? qui fait quand même partie, dans le cercle de mes invités, de celle qui a toujours, toujours tenu le même discours par rapport à ce qu'elle appelle des crypto-monnaies. Bien qu'on ait le débat sur monnaie ou pas monnaie, pour moi, ça se discute. Rafik.
Pour moi, c'est un crypto-actif aussi. C'est-à-dire que c'est une monnaie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des transactions en Bitcoin, mais c'est lourd, c'est lent. En revanche, c'est clairement un actif puisque beaucoup l'utilisent comme un placement. Moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire dans la relation au Bitcoin. Et évidemment, je suis d'accord avec vous sur le fond. C'est qu'il y a quelques années, j'en parlais avec des économistes, avec des personnes de l'univers de la finance, et ils me sortaient le fameux, et Dieu sait comme j'ai entendu ça depuis 25 ans que je suis entrepreneur, le fameux ça ne marchera jamais.
Oui, oui.
Il y en a encore.
À chaque fois
Madame Lagarde, elle n'a pas un mot pour défendre le.
Elle n'a pas fait de théorie monétaire dans sa vie.
À chaque fois que vous avez une innovation de rupture dans quelque domaine que ce soit, vous avez le fameux ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais qui passe quatre bulles. Moi, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ça.
Voilà.
On sait ce qu'est le Bitcoin aujourd'hui. Je crois qu'il est très difficile d'imaginer ce qu'il peut être demain. Oui. En tous les cas, on est rentré dans un système nouveau et il n'y aura pas de marche arrière. Le système des cryptos, c'est irréversible. Et par principe de vase communicant, les fameuses monnaies numériques qui sont aujourd'hui en latence, c'est là aussi irréversible, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer et dont on peine d'ailleurs à imaginer les contours aujourd'hui, tellement si on tire le fil, ça en devient vertigineux.
J'entends Rafik, j'ai toujours un petit peu de mal à imaginer que vouloir faire une monnaie banque centrale numérique, c'est une sorte de réaction à la présence de crypto-monnaies sur la blockchain.
Si, surtout les stablecoins, si.
Ah oui.
Si, quand même.
Bah, je veux bien qu'on... Oui.
C'est une façon aussi politique en termes de message de dire on y est. On y est, nous, la Banque Centrale Européenne.
Contre la Chine, certainement. Oui,
nous,
oui.
La Banque Centrale Européenne, qui avons signé avec vous, citoyens d'Europe, un pacte de confiance, on est sur ce terrain-là et vous allez pouvoir nous faire confiance. Sauf que une monnaie numérique entre les mains d'une banque centrale, c'est différent. Ça a la possibilité d'émettre de la monnaie nouvelle avec une date d'expiration, avec la possibilité de pouvoir flécher certaines monnaies, de faire tourner la planche à billets. Bref, ça peut aller très loin, et y compris d'un point de vue démocratique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon livre Le Nouveau Temps, j'en arrive en tirant le fil à arriver à la conclusion que un jour, nous serons sans doute obligés de d'élire le président de la Banque Centrale Européenne au suffrage universel direct.
Car ce sera l'homme le plus puissant du système.
Tellement il aura entre les mains tous les leviers de toutes les politiques fiscales, sociales et écologiques. Si on tire le fil, voilà où on en arrive.
Ah mais il y a aujourd'hui des débats, des chroniques qui se posent la question de la légitimité démocratique de la Banque Centrale Européenne.
Ça fait longtemps, mais elle revient
de toute façon. Est-ce qu'il faut repenser? Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que cette politique monétaire, il y avait le mot politique dedans, et que c'était une politique monétaire qui pouvait pratiquement parfois s'apparenter à de la politique budgétaire. Ça peut nous ramener au fameux débat qu'on a eu récemment avec Jésabelle Coupé-Soubéran et l'histoire de l'euro volontaire. On ne va pas recommencer ce débat aujourd'hui, mais vous êtes convaincu, Olivier Babot, par la crypto. Alors, je ne sais pas, monnaie ou actif, quel mot vous mettez?
Alors, moi, je mettrais plutôt actif. Désolé, mais
on est,
moi, je suis en tout cas...
3 contre 1.
Oui, je suis plutôt un crypto-enthousiaste depuis le début. Vraiment, ma position...
Sapiens.
Voilà, d'ailleurs, le premier rapport de Sapiens avec Yorick de Mombin et Gonzague Granval, ça s'appelait Bitcoin Total. Thème est tabou.
Le meilleur au début, papier qui a été écrit sur la
question.
C'est gentil,
il est toujours en ligne, il est disponible, c'est gratuit, vous pouvez y aller. L'idée, c'est effectivement depuis longtemps de suivre ça et on n'a pas dévié sur notre position. Bon, c'est vrai que si on regarde l'histoire des grandes bulles, si vous prenez les bulles de tulipes, la compagnie des mers du Sud, le Mississippi, les gens se font avoir une fois, mais enfin, après c'est terminé, ça ne revient plus jamais. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus que ça dans cette affaire. Si vous prenez les trois fonctions de la monnaie, n'est-ce pas, qui sont réserve de avant de réserve de valeur, étalon de mesure.
Oui.
Bon, étalon de mesure, vu qu'il y a une fluctuation qui est quand même assez forte, c'est pas génial.
Étalon de mesure, par exemple, le baril de pétrole se mesure en dollars.
Voilà, voilà. Et en fait, c'est pas idéal pour l'instant. En tout cas, il faudrait beaucoup plus de stabilité. Pour l'instant, la fluctuation est trop forte. Si vous prenez le moyen d'échange, c'est encore trop compliqué. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains bars hyper branchés où tu peux payer en bitcoin, mais enfin, globalement, c'est pas idéal. En revanche, en termes de réserve de valeur, je crois déjà aujourd'hui, c'est devenu un actif qui est utilisé.
Alors, réserve de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fait une épargne.
Tu fais une épargne, tu peux le mettre en or, tu peux t'acheter du lingot, tu peux t'acheter de la pierre papier. L'idée, c'est que tu as ici une forme de réserve. Alors, moi, depuis toujours, je dis aussi, n'y mettez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est un petit peu le conseil du casino, même si plus ça va, plus je pense que ça n'est pas de casino. Alors, la vraie question est, usque non haesce debet? jusqu'où cela montera-t-il ? Jusqu'où cela ne montera-t-il pas ?
100 000. Et alors, j'entends 100 000 cet été.
Bah là, 100 000, oui, est revenu devant la scène à cause, effectivement, de tous ces phénomènes combinés.
Mais il, oui, alors,
moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, on va aller aux 100 000, probablement à plus, parce que si justement ça marche, ça, il n'y a virtuellement quasiment pas de limite.
Ah, mais il n'y a virtuellement pas de limite. Il n'y a pas de limite à la baisse non plus.
C'est Yorick de Mambine.
Il n'y a pas de limite à la baisse non plus.
Ah non, mais de toute façon, moi, je
suis. Soit c'est zéro, soit c'est beaucoup plus.
Si elle se fait remplacer par quelque chose de plus efficace, elle sera à zéro. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pour le moment, bon, la raison pour laquelle moi je tiens à monnaie, c'est parce que ça a été conçu, c'est-à-dire que le design, il est pour une monnaie, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, du transfert des paiements, ça a été conçu comme une monnaie. Oui. Bien évidemment, une monnaie, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est ce que j'explique souvent, c'est pas les fonctions, ces trois fonctions, elles ne sont pas arrivées d'un seul coup.
Rappel, outil d'échange, voilà. De réserve et de mesure.
Voilà. Même l'or, quand il est né or, il n'est pas devenu tout de suite moyen d'échange pour tout le monde. Mais effectivement, ça se... Donc effectivement, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord que le moyen de paiement n'est pas dominant, ça c'est clair. Ça doit représenter, je ne sais pas, 10 à 20% de ses fonctions. Et qu'aujourd'hui, c'est effectivement, il est surtout détenu en investissement. Mais il ne faut pas non plus minorer le fait que dans d'autres pays qui ne sont pas les nôtres, il est apprécié comme monnaie, comme moyen de paiement, parce qu'il y a des monnaies qui ne sont pas efficaces et qui ne tiennent pas leur rôle. Ça protège contre la coercition de l'État et la répression financière qu'il y a dans des pays. Il ne faut pas l'oublier. Donc, parler aux Argentins, aux Libanais, ils sont... Alors, moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir des Libanais dans mes cours, mais ils étaient dithyrambiques et ils faisaient la leçon à leurs petits camarades. Mais vous comprenez pas ce qu'apporte le Bitcoin chez nous.
Oui. Il faut pas oublier qu'au départ, c'est un projet quasiment philosophique. Hein. L'idée, c'est de ne pas dépendre d'un tiers de confiance et surtout d'enfin avoir une monnaie sur laquelle l'État ne met pas ses grosses pattes
velues. C'est ça. Hein.
Et c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fera la grande force de cette monnaie qui est structurellement déflationniste. C'est-à-dire que comme le nombre est limité, tu vas pas pouvoir marcher la planche à billets et plus à côté, cette planche à billets, malheureusement, a marché et plus elle marchera, plus le Bitcoin en fait gardera en puissance. Exactement. À côté. Voilà, pour ça que. Mais mon pronostic est plutôt favorable. Je suis encore à l'achat.
Non, mais je trouve que le sujet en tout cas.
Je veux pas dire qu'il y aura pas une.
Ah non, il y a
une
pas...
baisse ou quelque chose hein, qui va arriver.
Oui, c'est vrai que les bulles se produisent pas quatre fois.
Bah, ça fait beaucoup, rare. Hein. Voilà.
On a 2 minutes 50, pas une seconde de plus pour évoquer ce sujet avec vous, Nathalie Janson. J'entends encore dans les débats que je mène ici dire que cette inflation n'est pas une inflation traditionnelle, c'est une inflation qui est venue d'un choc d'offres, qu'il fallait pas monter les taux, que de toute façon elle décélère comme elle est venue et que c'était prévu que ça allait se passer comme ça et que les banques centrales n'ont rien à faire là-dedans.
Moi, j'adore cette chanson. je la trouve fantastique. Bon, écoutez, comment dire ? Je sais plus où je peux commencer.
Vous avez 2 minutes 23.
Oui, j'ai 2 minutes, je dois être extrêmement efficace. Donc, en fait, le problème, c'est que moi, je veux bien qu'effectivement, ce soit apparu et que ça disparaisse, enfin, que ça s'atténue à nouveau. Parce qu'effectivement, l'expression du surplus de liquidité, à un moment donné, s'est mis dans les secteurs des biens et des services, parce qu'on a eu de l'épargne forcée pendant le Covid, qui ensuite a donné lieu à une surdemande. Et donc, effectivement, par rapport à une offre qui était relativement limitée, qui ne pouvait pas s'ajuster, on a eu une hausse des prix. Néanmoins, il y a de l'inflation. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous me laissez l'inflation à juste aux biens et services, bah oui, c'est vrai que là, elle va refluer. Je ne vais pas contester les faits. Les prêts à la production le montrent. Mais si vous me prenez le fait qu'il y a des valeurs qui augmentent, bah, je suis désolée, quand on voit que le CAC 40 est à plus de 8000, qu'on bat tous les records au niveau des indices, bah, je suis désolée, il y a encore de la liquidité dans le système et ça s'appelle aussi de l'inflation. Donc peut-être qu'effectivement l'inflation, on la définit mal, c'est-à-dire qu'il serait peut-être temps un jour qu'on se réveille et qu'on mette le prix des actifs dedans, parce que là, c'est vraiment là où ça opère. Mais je suis désolée, si vous avez des liquidités, une surliquidité, que vous avez des taux qui sont pas très élevés, vous avez des projets qui sont initiés, qui ne tiendront pas la route, et ça, c'est également de l'inflation. On appelle ça du mal-investment en théorie économique, et ça existe. Alors effectivement, l'inflation par le petit bout de la lorgnette dans les biens et services, elle n'est pas si importante, et effectivement, elle a été extrêmement expliquée par ce contexte Covid. Mais l'inflation, elle est là. On ne va pas me dire que des quadruplements de bilan de banque centrale, ça ne génère pas des effets réels.
Donc il fallait monter les taux.
Et
donc maintenant, il faut les baisser.
Et bien maintenant, non, on n'est pas obligé de les baisser. Puisque de toute façon, il y a toujours des liquidités. Moi, je ne les baisserai pas, voilà, personnellement.
Oh, comment vous osez ?
Oui, j'ose.
Bon, vous pouvez me dire juste un mot sur... Parce que là aussi... C'est le moment d'y aller et on aurait dû le faire depuis un petit moment.
Exactement.
On a été en retard pour les monter, il ne faut pas être en retard pour les baisser.
Exactement.